Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Arnaud Dautrive, vous êtes d'abord un artiste peintre, mais c'est en tant que secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts que vous avez accepté de nous rejoindre aujourd'hui pour présenter au public cette honorable, vénérable institution aux origines royales et révolutionnaires, tout à la fois. Alors, entre tradition et modernité, comment les membres de l'Académie des Beaux-Arts contribue avec les autres académies réunies au sein de l'Institut de France au rayonnement de ce qu'on appelle parfois communément le Parlement des savants, installé dans le palais du Quai Conti, dans un de ces lieux de mémoire magique de notre histoire de France. Alors, quel rôle les artistes ont joué et entendent-ils défendre aujourd'hui au sein de cette académie ? Arnaud Dautrive, bonjour.
Bonjour madame.
Alors, vous avez été élu membre de l'Académie des Beaux-Arts le 13 juin 1984 au fauteuil de Jean Souverby. Vous avez été président de l'Académie en 1987, 1991 et 1996. Et en guise de consécration ultime, vous avez été élu par vos confrères secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts le 2 octobre 1996. Merci d'être venu pour nous présenter justement l'histoire, les missions de cette belle académie, l'Académie des Beaux-Arts. Arnaud Dautrive, comment et quand est née l'Académie des Beaux-Arts ?
Alors, l'Académie des Beaux-Arts est née en 1816 et elle est l'héritière des académies royales, comme vous le savez, qui ont été créées sous le siècle de Louis XIV. Donc, c'est une académie reconnue comme relevant, j'allais dire, d'une institution bien particulière dans le sens où elle se consacre, contrairement à la française pour les lettres, elle se consacre naturellement à la peinture, à la sculpture, à l'architecture, gravure, musique, membres libres, création dans le cinéma et l'audiovisuel, et depuis peu, la photographie.
Donc ça, ce sont les différentes sections de l'Académie que voilà. Vous venez de nous présenter, et avec des créations toutes récentes. C'est,
voilà.
C'est assez novateur, parce que je crois que les autres académies n'évoluent pas autant dans leurs sections.
Alors, si j'ose me permettre, je pense qu'il y en a une, tout de même,
oui.
Qui évolue, et qui évolue rapidement même, c'est l'Académie des sciences, compte tenu de la multiplicité des
découvertes.
Oui, oui.
Alors, la dernière section née aux Beaux-Arts est celle de la photographie, mais on en reparlera probablement
oui.
Au cours de notre entretien. Cette académie, vous nous le rappeliez, est née au XIXe siècle, mais autrefois, donc, il s'agissait des académies royales de peinture, de sculpture, de musique, d'architecture qui ont été réunies au cours du temps. Combien de membres accueille-t-elle aujourd'hui ?
Alors, actuellement, nous avons 57 membres. Nous étions donc antérieurement avec le cinéma et donc la photo qui viennent de grossir en quelque sorte les rangs de l'Académie. Nous étions 6 et 2, 8. Nous étions donc dans les 50 membres il y a encore quelques années. Maintenant, nous sommes à 57. Nous avons obtenu les deux fauteuils pour les photographes.
Mmh.
Et les cinéastes ont été créés, du moins la section cinéma a été créée en 1985.
On ne peut pas créer de
donc
nouveaux fauteuils.
Donc actuellement, nous avons 57 membres.
Vous ne pouvez pas créer de nouveaux fauteuils. Ce sont
mais non,
des fauteuils
c'est extrêmement
qui,
difficile.
Oui, qui glissent d'une section à l'autre.
Dans le sens où il faut passer justement devant le Conseil d'État, il faut demander l'autorisation au ministère de tutelle, d'abord le Conseil d'État, et ensuite il y a naturellement les finances qui ont leur rôle à jouer également. Donc nous ne pouvons pas, j'allais dire, créer comme cela des fauteuils selon nos aspirations et nos goûts. Ce qui a demandé d'ailleurs pour certains un délai, j'allais dire, fort long. Par exemple, pour la photographie, je prends comme exemple, ces deux fauteuils, j'en ai parlé il y a 11 ans, puisque c'était un domaine que je souhaitais voir aboutir. Et convaincre mes confrères de l'utilité, de la nécessité
de faire rentrer,
la photo à l'Académie. Ensuite, tout le processus d'ouverture, donc de demande auprès du ministère, tout ceci a demandé en fin de compte presque 12 ans.
On a du mal à l'imaginer.
Mais pour les changements de statut, il peut y avoir quand même un délai, mais c'est un délai toujours long.
On prend son temps sous la coupole, toujours. L'Académie des Beaux-Arts a accueilli de nombreuses femmes comparées aux autres académies. Elle a été aussi un petit peu novatrice parce que dans les académies royales avaient déjà accueilli des femmes académiciennes quand j'ai découvert ça au cours de mes lectures. C'est avec surprise parce qu'on se rappelle tous de l'entrée de Marguerite Yourcenar à l'Académie française. Mm-hmm. Madame Jeanne Moreau, vous allez sûrement nous en parler, entrée également dans votre académie. Mais j'étais étonnée de voir, de constater que effectivement les femmes étaient très présentes. Alors, comment on peut expliquer ça?
Je vais dire que au départ, les femmes ont été très bien accueillies et beaucoup étaient donc élues. Oui. En fin de compte, parmi les femmes nous précédant, certainement celle la plus connue a été donc Madame Vigée-Lebrun, qui était une amie, j'allais dire en même temps personnelle, de la reine Marie-Antoinette. Bon, je ne citerai pas toutes les dames. Et puis, subitement, quand est arrivé le 19e, était-ce une époque machiste, en quelque sorte, il n'y a plus eu de dames. Et nous sommes, j'allais dire, dans une période où nous avons repris, si j'ose dire, l'usage, du moins la coutume, de faire entrer des dames. Et maintenant, nous comptons un certain nombre de dames parmi donc, les membres de notre académie.
Il y a plusieurs catégories de membres, d'ailleurs. À l'Académie des Beaux-Arts, vous avez des membres, des académiciens, mais vous avez aussi ce qu'on appelle des associés, des correspondants. Voilà. Vous pourriez nous présenter ces différentes catégories, si on peut dire.
Alors, vous avez donc les académiciens,
oui,
qui sont tous de nationalité française, obligatoirement. Ensuite, nous avons 16 membres associés étrangers. C'est-à-dire que ce sont des académiciens, en quelque sorte à part entière, mais qui n'ont pas le droit de vote. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas participer à l'élection d'un académicien.
D'un de vos confrères.
D'un de nos confrères. Et nous avons ensuite un certain nombre de correspondants et qui sont donc au nombre d'une, je pense, une trentaine. Et alors, les correspondants avaient en fin de compte un rôle primordial dans le temps passé, par le fait qu'ils relataient les faits qui pouvaient se dérouler dans des régions qui souvent étaient assez éloignées de la capitale. Et c'était eux qui faisaient donc la relation des événements qui se déroulaient en province aux académiciens qui naturellement statuaient et décidaient donc en fonction des renseignements d'intervenir.
Sur quelle organisation repose l'Académie des Beaux-Arts? Il y a un secrétaire perpétuel que vous incarnez, mais il y a une organisation, des sections, des commissions. Comment travaillez-vous au sein de votre compagnie?
Nous avons un président, un vice-président et un secrétaire perpétuel. Le président est en exercice durant un an.
Oui,
normalement, il a été l'année précédente le vice-président. Et à la suite d'une élection, confirmation donc à ses souhaits, s'il souhaite devenir président, il y a donc une élection et il devient président l'année suivante. Alors donc nous avons le président qui change tous les ans et qui chaque année est pris dans une des sections composant donc l'académie.
Donc un président par section différente chaque année.
Voilà, c'est-à-dire que cette année nous avons Pierre Schandorfer. Le cinéma. C'était donc l'année du cinéma. L'année prochaine, en principe dans l'ordre, ce sera la photo. Le président, l'année prochaine, sera donc un photographe. Alors actuellement, quoique malgré tout, ils ont plus ou moins laissé passer leur tour, car le vice-président actuel est un peintre. Bon, alors, lui va devenir donc président et le secrétaire perpétuel, lui, reste, j'allais dire, secrétaire perpétuel. Et nous sommes parmi, avec l'Académie française, parmi ceux qui ont un véritable rôle de perpétuel. Nous avons été élus par nos pairs et nous restons donc en fonction sans qu'il n'y ait ces changements, ces interrogations ou ces couperets qui tombent à la fin
Parce
d'un certain mandat.
Parce qu'effectivement, par exemple, à l'Académie des sciences morales et politiques, il y a un mandat de certaines années, alors que ce n'est pas le cas à l'Académie française ni au sein de
notre
Académie.
Nous avons en fin de compte des statuts certainement très proches de ceux de la française, si ce n'est qu'au niveau du nombre. Nous sommes attachés, en fin de compte, à cette perpétuité qui est, en fin de compte, le fait que le perpétuel est en quelque sorte la bonne ou la mauvaise mémoire de l'Académie.
La bonne.
Voilà. Par-delà, donc, le bureau, président,
non,
vice-président perpétuel, nous avons deux membres élus, j'allais dire tous les 3 ans, qui vont participer au fonctionnement donc, du bureau. C'est-à-dire que ils seront là en tant que conseillers, c'est-à-dire que tout ne repose pas sur le secrétaire perpétuel, car le perpétuel est l'ordonnateur, est en réalité, excusez-moi pour le peu, le véritable donc responsable, à tout point de vue. Le président est en quelque sorte chargé du législatif, alors que le perpétuel, c'est l'exécutif. Rien ne peut se faire sans l'aval du secrétaire perpétuel. Je ne veux pas du tout m'approprier des fonctions ou des responsabilités très grandes, mais c'est le cas. Et alors, pour étoffer le bureau, nous avons deux membres de l'Académie qui ont été donc élus par l'Assemblée plénière et qui nous accompagnent dans les commissions administratives et pour des décisions importantes.
Et ce bureau est renouvelé tous les ans ?
Alors ce bureau, effectivement se modifie tous les ans, mais pour les membres de la commission administrative, ces deux personnes dont je vous parlais, qui sont élus, pour eux je pense que le mandat est de 3 ans.
Alors, comment devient-on membre de cette académie ? Évidemment, les auditeurs se demandent comment on devient académicien. Alors, monsieur Arnaud Dautrive, pouvez-vous nous expliquer comment se déroulent les élections, mais surtout, comment, sur quels critères, comment les gens font pour devenir académicien ?
Alors, pour reprendre un lieu commun, vaste programme. Bon, le critère principal est d'abord que le candidat ait quand même une image, j'allais dire, le véritable créateur, que ce soit un peintre, que son talent, qu'un musicien, donc que ses compositions soient quand même reconnues comme telles. Bon. D'abord, par un certain public, mais particulièrement par les futurs confrères, dès l'instant où ils posent. Bon. Car en fin de compte, ce sont les académiciens qui vont décider et qui jugent, eux, réellement, si le personnage a la dimension souhaitable.
Alors, que doit-il faire, ce personnage ? Il est approché par des académiciens ?
Souvent, un académicien a été... un futur académicien, pardon, a été pressenti. C'est-à-dire que, bon, un confrère lui dit « Mais pourquoi tu ne viens pas nous rejoindre ? C'est ta place. » Vous voyez un petit peu comment les choses peuvent se passer. Et alors, bon... On va dire le candidat va d'un seul coup accepter. Et dès cet instant, il y a forcément une interrogation entre académiciens sur les qualités, sur l'entregent du candidat, sur, je n'allais pas dire sa prestance, un certain nombre de facteurs qui jouent. Et tout cela, naturellement, le sert ou le dessert lors de son élection. Alors, si vous voulez, d'abord, le premier critère, des qualités donc artistiques. C'est ce que nous demandons, c'est d'abord cela. Et c'est peut-être, j'allais dire, ce qui m'étonne le plus dans cette institution, c'est, en fin de compte, les possibilités qu'ont, contrairement à ce que l'on pense, les artistes, de pouvoir rentrer dans un endroit aussi attachant, aussi fort, que représente l'Académie des Beaux-Arts, par-delà l'Institut de France, de pouvoir rentrer dans une institution alors qu'ils peuvent être croyants, non-croyants, fortunés, miséreux. Bon, il n'y a absolument aucun critère. Et cela, je trouve cela extraordinaire. arriver d'un seul coup, je dirais, à un relatif sommet, sans avoir se dire, eh bien, bon, je n'ai pas de fortune personnelle, ou au contraire, ça va me desservir, ou j'ai un nom, ou je n'ai pas de nom, bon, je suis de tel. Et cela, je trouve cela extraordinaire. Ça ne relève absolument pas de critères qui, malheureusement, sont utilisés ou présents dans d'autres organismes.
Alors justement, c'est cette particularité aussi de l'Académie des Beaux-Arts que d'accueillir des artistes de différents courants, différents styles. Il y a également un accueil d'ouverture sur toutes les esthétiques. Enfin, je suppose que c'est comme ça.
Alors je crois...
Les vieilles batailles, débats sont-ils
oui,
finis
alors, effectivement, d'abord c'est mon souhait en tant que perpétuel. Je ne suis pas forcément le chef d'orchestre. On croit souvent que le perpétuel est un peu le Deus ex machina, mais cela, je crois qu'il faut l'oublier. Bon, effectivement, j'ai des options, car je suis d'abord académicien et perpétuel. En fin de compte, pour reprendre toujours ce lieu commun, j'ai deux casquettes. Bon, parfois difficiles, car ce que ressent le peintre, l'académicien, et ce que je me dois de mettre en application peut parfois être tout à fait à l'opposé. En tout cas, personnellement, je suis pour une ouverture très grande de l'Académie, et je pense que celle-ci le démontre et qu'il y a eu une évolution dans ce sens. Avant, il y avait une sorte de chasse gardée, celle de l'Institut, et maintenant, je pense qu'il y a une ouverture, puisque nous avons vu des grands noms d'artistes contemporains, nous en avons également parmi les plus probant, et ceci est en fin de compte le signe de ce souci que nous avons d'ouvrir l'Académie. Nous avons des personnages comme Zhao Fuqi, nous avons Zhou Tichun, nous avons eu Étienne Martin, nous avons eu Olivier Messiaen, Xenakis, bon, nous avons M. Mach, qui est un merveilleux compositeur, mais de musique, effectivement, je ne vais pas dire traditionnelle et non traditionnelle. Nous avons une femme, Mme Kanachizi, qui est un excellent compositeur, qui ont des positions très, très grandes. Guy de Rougemont.
Alors, qu'est-ce qu'apporte, en sens inverse, qu'apporte aux artistes d'être élus au sein de l'Académie?
C'est la création. Un artiste, en fin de compte, est par nature un solitaire. Et je dirais même un égoïste. Nombrilesque. Bon. Et je pense que l'Académie est tout de même une sorte de microcosme dans lequel ils ont la chance de retrouver des amis, des artistes qui ne vont pas forcément dans leur direction, mais avec lesquels ils peuvent véritablement échanger des propos tournant autour de l'art, de problèmes d'ordre artistique. Lorsqu'ils sont en dehors de l'Académie. Forcément, ils ont des relations avec d'autres artistes, mais, disons-le, le feeling qu'ils retrouvent au sein de l'Académie est quelque chose pour eux, certainement, en même temps, de réconfortant, même s'ils critiquent l'esprit de l'Académie. Car, en fin de compte, pour beaucoup, bon, ils trouvent que l'Académie ne bouge pas assez, ne s'assouplit pas.
Vous réunissez en séance toutes les semaines.
Tous les mercredis. L'autre jour et le mercredi.
Et donc, il y a des débats.
Les séances ne sont pas ouvertes au public. C'est une académie extrêmement vivante.
Oui.
Vous savez, les artistes sont parfois, non pas les plus dérangeants, mais je garde le souvenir d'un de nos chanceliers qui m'a dit, vous savez, Dautrive, vous avez l'académie la plus difficile. Et alors, je lui dis, écoutez... Monsieur le chancelier, je vous remercie de le reconnaître. Non, mais effectivement, c'est ce qui donne le caractère vivant. Bon, si vous voulez, par moments, nous ressentons profondément la chose. Bon, y a beaucoup, beaucoup de facteurs. En plus, c'est une académie qui a une personnalité très grande, mais avec des critères qui n'existent pas au sein de cette académie, mais qui existent, par exemple, au niveau de la française, des sciences, où il y a des règles précises. En fin de compte, les artistes sont des anarchistes, je ne vais pas dire qu'ils se coltent, en fin de compte, qu'ils ne se détestent pas, qu'ils ne s'aiment peut-être pas particulièrement, mais c'est un monde très particulier. Et je crois que l'Académie, sur ce plan, est vivante.
Quels personnages célèbres ont appartenu justement à cette compagnie? Est-ce que vous auriez une anecdote à nous raconter? Ou bien une élection, on en a parlé, ou un personnage qui a eu un destin. C'est difficile d'en choisir au cours de plusieurs siècles.
Je dirais pas sur plusieurs siècles, mais en tout cas, durant la période mm-hmm. où je suis moi-même donc, à l'Académie,
votre
ce qui va faire maintenant 24 ans. Oui. Non, je garde, non pas du tout en mémoire, c'était donc l'installation de Dali.
Oui.
Dali a été membre donc de l'Académie et Dali est arrivé et a fait un discours absolument bon dans l'esprit de Dali. Tout le monde a ri, tout le monde s'est amusé et on s'est aperçu à la fin que l'enregistrement du discours était absolument incompréhensible. Donc c'est certainement un de nos membres sur lequel il ne reste rien de l'installation et qui a certainement été une des installations les plus amusantes, les plus drôles. Alors il y avait également Dzéry, qui était un correspondant étranger, ce grand historien de l'art, et qui lui avait en fin de compte préparé trois moutures.
Des discours.
Qui en fait, trois discours, oui, pour son discours d'installation, oui. d'un pétrant, et en fin de compte, a pris à tout improviser. Alors, il y a comme cela des cas très amusants. Il y a, par exemple, il y a eu des hommages rendus à nos centenaires, car nous avons eu le privilège d'avoir, en 24 ans, nous avons eu deux centenaires, dont l'un est encore heureusement de ce monde, qui est Marc Salté, l'ancien administrateur de Versailles, et qui est, je crois, dans sa 102e année. Bon. Alors naturellement, vous savez que c'est un des moments où, quand on fait cet hommage, où, j'allais dire, non pas l'impétrant, ou l'ancien impétrant, va entendre une deuxième fois son éloge.
Et, ça se passe sous la coupole.
Oui, oui. Et je me souviens de cet hommage rendu à Paul-Louis Weller, et qui était présent, qui a pris la parole, en présence de la grande-duchesse de Luxembourg. Et puis, subitement, la chaleur communicative de l'Assemblée, il parlait. Et compte tenu de son âge, bon, il y avait une certaine faiblesse, à un moment donné, dans l'expression, et on n'arrivait plus à l'arrêter. Il y avait à côté de lui son valet de chambre qui lui a dit, car... Paul-Louis Weller avait été un des grands as de la guerre de 14, abattu 7 fois. Et il lui a dit, commandant, on se pose. Et le commandant s'est tu. C'est un des souvenirs, j'allais dire, amusants.
D'une des grandes séances solennelles.
Oui, oui, oui. Alors quand ça se passe de façon solennelle et que l'on entend bon, parfois des réactions, c'est assez drôle.
Quelles sont les missions et les champs d'action aujourd'hui de l'Académie?
Eh bien, écoutez, je crois que c'est d'intervenir dans toutes les directions que l'on puisse souhaiter, c'est-à-dire d'abord la promotion des arts, relever également ce qui relève, j'allais dire, d'une vérité et ce qui relève simplement d'une mode qui sera en fin de compte très, très passagère. Donc c'est notre rôle d'aller à l'essentiel. Et je pense que là, c'est mon souhait très fort. Nous ne sommes pas là pour dire ceci doit être reconnu comme étant, j'allais dire, valable et l'esprit même de notre époque où ceci est à condamner. C'est à nous de trouver ce qui relève d'une vérité, si vous voulez, d'une expression profonde. Je vous le dis surtout, non d'une mode. Je pense que et là, je ne voudrais pas que mes propos soient inélégants à l'endroit de notre institution. Peut-être qu'à un moment donné, la force de l'Institut, ou du moins de l'Académie, pardon, était de dire, de donner le ton dans un sens, qui était donc d'abord l'académisme, qui, comme vous le savez, a, disons-le, un peu perdu de sa force. Je ne vais pas dire dégénéré, ce qui serait donc extrêmement gênant, mais pour arriver à ce qu'on appelait le pompiérisme. Et il y a eu toujours cette poursuite à travers un enseignement, dont je suis d'ailleurs le premier bénéficiaire et que je reconnais comme ayant été très important dans ma vie, puisque je suis ancien Grand Prix de Rome.
Oui.
Donc j'ai vécu 4 ans à Rome
En
à l'époque
57, je crois.
où il y avait encore ce séjour long. Et ensuite, j'ai eu Madrid. Bon, donc j'ai une formation tout à fait classique et je ne voudrais pas être pris pour quelqu'un qui se permet de médire sur ce dont il a bénéficié. Mais c'est peut-être ce drame qui se traduit pour notre institution par une sorte de tâche originelle, c'est que nous n'avons pas reconnu les impressionnistes. Les impressionnistes n'étaient pas dans la ligne, j'allais dire, des académiques.
Il y a eu un grand débat entre
Alors il y a eu forcément un grand débat,
les
rejet
tenants.
Des impressionnistes,
Oui.
Rejet des pointillistes, en fin de compte, de tout ce qui va faire la peinture moderne.
Oui.
Les fauves, le cubisme, sont ignorés par l'Académie. Et ça, c'est peut-être notre tâche, mais je me reprends très vite en disant, ce n'est pas parce que un grand-père a fait de la prison que les petits-enfants doivent en subir les conséquences. Car, à tout moment, c'est ce qui nous est reproché. Ah, mais vous n'avez pas
Oui.
reconnu les impressionnistes.
Vous voulez tourner cette page définitivement,
alors ça,
surtout
qu'elle
a...
Je veux la tourner, je ne veux pas devenir, dans l'esprit de ce que disait Jérôme, le pompier ou les pompiers qui avons pris feu, mais restons très lucides et nous ne sommes pas là pour dire ceci est bon, ceci n'est pas mauvais, mais ceci relève d'une vision qui nous paraît intéressante. Mais je pense que là, c'est un grand tournant et on le voit à travers, j'allais dire, l'évolution au niveau des tendances. J'entends des tendances exprimées par les membres élus. Bon, j'ai eu des confrères extraordinaires, mais il y a eu une ouverture qui s'est faite il y a maintenant, disons-le, une trentaine d'années, peu de temps avant que je n'entre, donc à l'Académie. Bon, vous aviez des musiciens, comme je vous le disais, Olivier Messiaen,
oui,
nous
Olivier
avons
Messiaen,
eu Xenakis, nous avons eu Étienne Martin,
oui,
Ligeti, bien sûr,
qui est
nous avons de
décédé.
très grandes figures. Nous avons eu Orson Welles, nous avons eu Peter Ustinov, nous avons Polanski, qui est un merveilleux cinéaste, nous avons Claude Parent. Non, je pense que
Pour
là,
l'architecture.
je n'allais pas dire un melting pot, j'allais dire académique tout à fait sympathique, qui montre quand même une ouverture. Alors, naturellement, toutes ces tendances, toutes ces expressions, toutes ces personnalités, il faut que tout cela soit non pas amalgamé, mais que chacun garde, j'allais dire, son libre parler, mais...
Tous ces artistes, tous ces créateurs d'horizons différents travaillent au sein de votre compagnie ensemble, mais dans quel but? Encourager des jeunes créateurs, ça
Alors,
fait partie des missions habituelles
nous
de
avons,
l'Académie des Beaux-Arts, je crois.
nous avons donc un rôle consultatif.
Oui.
Je dois dire que ceci peut arriver, mais très rarement, de la part du gouvernement.
Mmh.
Et c'est ce que je déplore
Oui, ça c'est
dans
une...
le sens où, en dehors de toute qualité artistique, il y a une chance extraordinaire pour le gouvernement, c'est d'avoir une poignée d'artistes, je dis bien d'artistes, qui ont une parfaite connaissance de leur métier. Je n'entends pas du métier forcément classique ou tout ce que l'on veut, mais de leur métier. Et je suis toujours étonné qu'ils ne fassent pas davantage appel
Oui.
à
Quand
ces artistes.
l'Académie a-t-elle été consultée pour la dernière fois?
Alors, nous avons été consultés, une fois c'était pour l'enseignement de l'art, mais il n'y a pas eu de suite. Nous avons travaillé pendant près d'un an, je me souviens, et c'est d'ailleurs, j'allais dire, une aventure un peu récurrente qui revient régulièrement de la part du ministère de l'Éducation nationale.
Dont
Car,
les...
comme vous le savez,
Mmh.
nous dépendions
Voilà,
à
mais
l'époque, plus maintenant,
voilà, ça a
du
changé.
ministère de l'Éducation nationale.
Les académies étaient placées sous la
Oui.
tutelle du ministère de l'Éducation nationale et de la culture. Et aujourd'hui, de quelle tutelle dépendent les académies?
Eh bien, depuis peu,
Très peu de
attendons les
temps.
nouveaux statuts, nous ne dépendrons plus de personne. Ce sera la totale liberté, et c'est une excellente chose, tout en restant soumis au contrôle, forcément, de la Cour des comptes, car c'est toujours au niveau pécuniaire que les choses...
Mais vous jouerez toujours ce rôle d'organisme
Ah,
consultatif
absolument.
auprès
Alors, nous avons
des plus hautes
également la
autorités du pays.
défense. du patrimoine. Bon, une de nos dernières interventions, et même par voie de presse, nous nous sommes élevés contre la création d'un stade dans la ville de Lille, dans la forteresse de Vauban. Et là, l'Académie est montée, si j'ose me permettre, en ligne,
oui.
Et nous avons obtenu gain de cause. Le ministre avait donné en son temps son aval, et le Conseil d'État a décidé donc
d'annuler
le projet.
Arnaud Dautrive, quelles sont les activités ordinaires de l'Académie des Beaux-Arts ?
Les activités les plus courantes, ce sont les attributions de prix et d'aide et encouragement. N'oubliez pas que l'Académie des Beaux-Arts distribue, bon an, mal an, l'équivalent, excusez-moi d'être ostentatoire, 1 million d'euros.
Chaque année.
Chaque année, à travers des prix et surtout pour aider des artistes en difficulté.
Il y a à peu près une quarantaine de prix, non?
Nous avons, oui, une quarantaine de prix à peu près par an qui sont donc remis solennellement sous la coupole lors de notre séance plénière de reprise donc, du cours de l'Académie.
Et toutes les, tout, tous les arts sont,
ah,
sont
tous les arts,
bien
toutes les
entendu
disciplines, j'allais
représentés.
dire, sont couvertes par un prix. Là, nous en avons un qui est un prix tout à fait, j'allais dire, plus que sympathique, qui a été créé par un de nos confrères récemment élus, Marc Ladry de la Charrière, qui finance le prix de photographie.
De la nouvelle
Donc nous allons
section.
avoir donc un prix pour des photographes, et c'est très intéressant dans le sens où ce n'est pas un prix qui sera attribué pour un travail, mais pour un projet.
Pour un projet,
Et
d'accord.
ceci est en fin de compte une dynamique nouvelle pour notre académie. Mais nous avons des prix très importants, comme les prix d'Anne Ducat, comme le prix de chant choral Liliane Bettencourt, nous avons Pierre-David Veil pour le dessin, toutes les disciplines sont couvertes.
Alors ça, c'est effectivement une activité.
Nous avons des prix importants. Donc.
Vous avez aussi une activité de publication.
Alors, depuis, je n'allais pas dire depuis peu, depuis 5 ou 6 ans, j'ai lancé, j'allais dire, ce partenariat avec, non pas des institutions, au moins une institution qui est l'École des Beaux-Arts depuis peu,
Oui.
où nous allons publier tous les comptes rendus des séances au XVIIe et XVIIIe siècle. Donc c'est un ouvrage considérable où l'on aura toutes les communications et tout ce qui était donc les débats à l'époque dans les académies royales.
Alors, c'est un gros projet. Ça a
C'est un gros
commencé, il y
projet
a eu une
qui va être
première
sur plusieurs années.
publication. Ça va durer
Voilà,
sur
sur
plusieurs années.
plusieurs années, le premier tome est
Est sorti.
sorti.
Ça
Nous
s'appelle.
avons également entrepris la publication de tous les procès-verbaux depuis les origines. Là, actuellement, nous sommes dans les années 1850, 1860, qui est aussi un ouvrage très long.
Les historiens d'art vont se régaler.
Voilà. Nous avons. Ah oui, ce sont des mines
Oui, tout à
pour les
fait.
chercheurs. Je pense que là, c'est une très bonne chose. Nous allons, c'est un de mes souhaits, je voudrais faire réaliser plutôt un ouvrage véritablement important sur l'histoire complète et illustrée de l'Académie des Beaux-Arts,
Oui.
son passé, son présent et son devenir, mais sinon que ce soit un petit peu en quelque sorte, non pas la Bible de notre maison, mais également un élément qui sera vraiment une somme. Alors je pense faire appel à plusieurs plumes.
Et puis, vous avez également un site internet sur lequel on
Oui.
retrouve des communications antérieures, les programmes, bien entendu, l'activité des différents académiciens de votre compagnie, également les portraits de vos académiciens, non? Il
Oui,
y a des fiches
absolument. Oui,
biographiques,
on
leurs
apprend tout
œuvres, et puis
sur.
surtout, on se régale à regarder vos épées, qui sont toutes des œuvres
Oui,
d'art.
oui.
Et effectivement, vous avez mis en photo de nombreuses épées et le grand
Oui.
public n'a pas accès
Oui, je dirais même
à ça.
que les épées
Et
sont
elles sont fort
très
belles.
fortes dans le sens où elles démontrent bien le caractère, l'esprit, le choix de chacun des membres de notre académie. Et il y en a qui sont attachés à l'esprit militaire, qui ont un sabre militaire, c'est comme Trémois, Pierre-Yves Trémoy, qui était très attaché au Japon, a un sabre de samouraï. Je connais un antimilitariste qui a une épée en bois. Un autre a une épée qui joue de la musique. Bon,
Et chaque fois,
on trouve il y a un côté, non pas gadget,
non.
Ce n'est pas cela, mais qui représente bien donc,
la personnalité de celui qui la porte. Arnaud Dautrive, quelle est votre vision d'avenir, votre souhait pour l'Académie? Vous nous en avez plus ou moins parlé. Et quel est votre plus beau souvenir à ce jour au sein de cette Académie?
Au risque peut-être de vous étonner, bon, en dehors du plaisir que je prends à côtoyer mes confrères, c'est en fin de compte la création de la section de photographie, car je me suis réellement battu. C'est une expression qui est en même temps combattue, qui a été combattue par certains de nos confrères, considérant que la photographie relevait plus de la mécanique qu'une sensibilité, alors que, en fin de compte, la composition d'une photo est absolument équivalente à celle d'une peinture. Excusez-moi pour ce raccourci audacieux, mais pour moi. Et en plus, je suis un homme, j'allais dire, de la campagne. Ce dont je suis fier et où l'image, les émotions, le caractère émotionnel jouent particulièrement. Et j'ai toujours été un amoureux de l'image. Et la photographie, même si je ne la comprends pas bien dans sa profondeur, est quelque chose qui m'a toujours fasciné. L'image et la photo, pour moi, sont très proches. Et je dois dire que la création de ces deux fauteuils est pour moi donc certainement une de mes grandes joies.
Vous auriez souhaité que la section de photographie dispose de plus de fauteuils que les deux existants,
deux
monsieur Dautrive.
Fauteuils, c'était déjà difficile à obtenir, mais j'avoue que personnellement, j'aurais très bien vu la section de photographie est à peu près l'équivalent de ce qu'est le cinéma. Avoir davantage de fauteuils.
Arnaud Dautrive, merci d'être venu nous présenter l'Académie des Beaux-Arts, cette compagnie qui vous tient particulièrement à cœur, et de nous avoir présenté le côté vivant de l'Académie.
Je vous remercie.